au cinéma ce soir, je t'emmène?
Oh, ça, je peux pas.
Pour le cinéma, monsieur Leblanc.
On pourrait foutre le feu à la forêt pour les obliger à sortir.
Le cinéma ou la télé?
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous venez d'écouter le générique de la 37e édition du Festival international du premier film réalisé par Léo à la technique. J'en profite pour le saluer. Et aujourd'hui, donc, on reçoit la réalisatrice de Jumbo, qui fait partie des 10 films de la compétition. Donc, c'est Zoé Witok. Bonjour.
Bonjour.
Alors Zoé, tu présentes ce premier film. J'ai lu, donc à 17 ans, tu rentrais à l'école internationale du film à Paris.
Oui, tout à fait.
Ce qui est très jeune. Ensuite, tu pars aux États-Unis à l'American Film Institute à Los Angeles. Et donc tu vis entre Paris et Bruxelles, si les informations trouvées sur le net sont bonnes. Et tu viens donc de réaliser ton premier long métrage qui est en compétition cette année. Est-ce que tu peux nous dire rapidement de quoi il s'agit dans ce film?
Alors ce film, c'est une histoire d'amour un peu extraordinaire, puisqu'il s'agit d'une jeune femme qui va réaliser le soir, quand elle travaille dans un parc d'attractions, qu'en fait une des machines prend vie devant elle, une des attractions à sensations fortes, et elle va en tomber amoureuse. Cette machine s'appelle Jumbo, et quand elle parle de Jumbo à sa mère, évidemment sa mère n'est pas très contente. Donc il s'agit évidemment d'une histoire d'amour, mais aussi d'un drame familial, de comment réagit-on quand on est mère et que notre fille nous apprend un tel sujet, en plus inspiré d'une histoire vraie.
Alors voilà, on est sur du film d'auteur et film fantastique, on est à la frontière des genres, et tu réalises ça avec brio, à mon humble avis.
Merci.
Avec des acteurs, actrices assez incroyables aussi, hein, il faut le dire. Donc je dirais que tu as eu la chance de travailler avec Noémie Merlant, Emmanuel Berco, Bastien Bouillon et Sam Loïc.
Loïc, exactement.
Qui sont tous excellents à l'écran et qui incarnent parfaitement les personnages que tu as créés. Comment elle t'est venue, cette idée?
Alors, l'idée du film, en fait, elle est partie d'une histoire toute bête. C'est-à-dire que j'ai lu un fait divers, quand j'habitais encore aux États-Unis d'ailleurs, sur une femme qui a épousé la Tour Eiffel, qui s'appelle Erika Eiffel d'ailleurs. Et évidemment, quand j'ai lu cette histoire, ça m'a fait un petit peu sourire, et en même temps ça m'a fascinée. Je me suis demandé, mais comment, pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Et donc, à force de recherche, j'ai réussi à la contacter. Et à ce moment-là, en fait, je me suis retrouvée face à quelqu'un qui m'a surpris, parce que je m'attendais à quelqu'un d'un peu fou, ou peut-être en marge, en tout cas décalé. Et j'étais surprise par sa rationalité, si je peux dire, un discours extrêmement sensé, et peut-être même une forme de banalité, qui, si ce n'est qu'elle avait épousé la Tour Eiffel, je pense que je ne l'aurais pas sortie du lot dans la rue. Et donc c'était assez fascinant de me retrouver face à ça, parce que en m'intéressant au sujet, ça a complètement transformé ma vision de ce sujet, qui aurait peut-être plus pu commencer par une sorte d'étude peut-être de ce qu'est cette potentielle maladie mentale, comme certains psychologues l'appellent, qui est l'objectophilie. Et en fait, ça a réorienté ma pensée vers plutôt l'exploration d'une histoire d'amour. Parce qu'au final, c'est comme ça qu'elle le vit, cette histoire, une simple histoire d'amour.
C'est vraiment assez magique, effectivement, comment, durant ces 1h40
Une heure et demie.
On est vraiment pris par la main, je trouve, par Noémie Merlant. Je me rappelle plus de son prénom dans le film.
Pardon. Jeanne.
Jeanne. Moi, j'ai eu le sentiment d'être accompagnée avec elle et effectivement, au début, d'être très surprise par ses objets et son rapport à ces objets. Mais quand même, on y arrive, et donc c'est toi, avec cette caméra et ton équipe, bien sûr, qui arrivait à faire naître les émotions et à faire naître presque la sensation. Il y a plusieurs scènes qui sont érotiques dans ce film. Comment on travaille ces images-là? Comment on arrive à faire ressortir cette émotion?
Je pense que la manière dont on a voulu aborder ce film, c'était vraiment au premier degré, c'est-à-dire le point de vue direct du personnage principal. On cherchait à se mettre à sa place, à ressentir les choses telles qu'elle les ressentait. Donc, le personnage de Jeanne, on va dire, dans la réalité, les objectophiles sont des gens qui sont parfois un petit peu autistes. Le syndrome d'Asperger revient souvent chez ces personnes-là. Et ces personnes-là ont une forme de sensibilité particulière, c'est-à-dire qu'ils vont ressentir les sons, la lumière, le bruit, les mouvements de manière plus intense que nous. Et donc, c'était un peu la base de ma réflexion, c'est-à-dire que je voulais... Comment est-ce que si je pouvais mettre une caméra à l'intérieur de cette personne, comment est-ce que je pourrais potentiellement percevoir le film ? Alors bien sûr, il y a toute la magie de la fiction qui vient s'ajouter à ça, donc on se permet quelques libertés dans le fantastique. Mais il y avait toujours une volonté de l'ancrer dans une forme de réalisme pour que ça part bel et bien de la réalité du personnage. Et donc en fait, on part de là, évidemment, comme c'est une histoire d'amour, ben, il y a une part d'érotisme.
Comment tu as fait pour faire financer ce film, pour trouver ton équipe de travail? Parce qu'avec un scénario comme ça, pour que les gens te prennent au sérieux dans ton travail, et j'ai envie de dire d'autant plus avec cette posture de femme où on sait que c'est pas évident dans notre société, voilà, d'être une femme réalisatrice et de mener à bien ses projets. Quels ont été les freins que tu as pu rencontrer, mais peut-être aussi plutôt nous raconter, voilà, les endroits où ça a fonctionné et comment tu t'y es prise?
Bah, déjà, il faut savoir que du coup, pour vous amener le film ici devant vous, entre le moment où j'ai lu cet article sur cette femme épousée la Tour Eiffel et aujourd'hui, il s'est passé 8 ans. Donc 8 ans pour se battre, pour faire en sorte que ce film puisse voir le jour, c'est énorme évidemment. Et en même temps, pour un premier film, ça reste malheureusement un petit peu dans la norme. Je pense que ce qui était le plus difficile, c'est certes en tant que réalisatrice, c'est compliqué, mais j'ai envie de dire en tant que jeune réalisatrice, c'est encore plus compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, YouTube, etc., des youtubeurs, on réfléchit un peu plus à ce que la jeunesse a apporté et on a un autre regard sur la jeunesse, on va dire 10 ans plus tard. Mais comme moi, en tout cas, j'ai commencé dans le cinéma il y a 10 ans, être jeune, c'était plutôt un handicap. Donc ça a été, je pense, la première difficulté à dépasser, et surtout quand on a une ambition de faire un film justement à la frontière des genres, entre le genre, entre le film d'auteur, pas classique, un peu ovni comme certains voudraient l'appeler, avec un sujet un petit peu compliqué. Mais au final, c'est ça qui m'intéressait dans le film aussi, c'était ce challenge et cette originalité. J'avais pas envie de raconter le quotidien de quelqu'un. J'avais envie de raconter une histoire un petit peu extraordinaire et un petit peu détonnante. Donc je me suis accrochée. Voilà.
Ça fonctionne parfaitement. Il faut vraiment aller voir ce film. Alors. On est à la fin du festival, donc voilà, la dernière chance, elle est en train de se dérouler. Mais ce film va sortir le 18 mars en salle. Voilà, il est distribué par Réseau Film. Il faut aller voir cette merveille, si je peux me permettre. Voilà, il y a une lumière magnifique. Il y a aussi un gros travail sonore sur ce film, entre la musique et... la sonorité des objets et des vibrations, ça a été un travail facile, difficile?
Ça a été un travail fastidieux, si je puis dire. Je pense que c'est facile ou difficile en fonction des personnes dont on s'entoure. Donc c'est toujours assez lourd comme charge, mais j'ai eu la chance d'être entourée par de très très bonnes personnes. Au montage son, j'ai eu Maxence Dussert, qui est un jeune monteur son dans le cinéma français, mais avec un avenir brillant devant lui, j'en suis certaine. Et à la musique, Thomas Roussel, qui est un grand compositeur, qui a déjà pas mal d'expérience et de bouteilles derrière lui. Donc c'était un vrai honneur qu'il accepte de travailler sur mon film. Et justement, ça a été une véritable volonté de travailler en collaboration entre Thomas et Maxence, donc le monteur son et le compositeur, pour que la musique puisse rappeler quelques thématiques du montage son et vice-versa. Donc voilà, ça, je pense que c'était un travail de collaboration qui nous a permis d'arriver là, mais... Moi, il était certain, et finalement, dès le scénario, que les sons allaient prendre une énorme place dans ce film, tout comme les visuels d'ailleurs. C'est ce que j'expliquais par rapport à cette sensibilité un petit peu extraordinaire que peuvent avoir certains autistes. Et donc, cette envie de le montrer à l'écran allait forcément passer par un travail des sens un petit peu décuplé.
Oui, voilà, je voulais revenir quand même sur l'histoire et les personnages. Voilà, on est sur une histoire un peu fantastique, effectivement, avec une part où vous faites vivre dans ce film un appareil. Voilà, donc ça, c'est la partie un peu originale, même très originale. mais qui sert énormément tous les personnages, qui sont des personnages blessés, mais qui n'apparaissent pas, je trouve, comme des personnages où on peut prendre pitié ou avoir un regard comme ça triste. Au contraire, ils sont des personnages très forts et très engagés dans la vie et plutôt extravertis. Et ce film, enfin, parle de différence, parle de complications de vie, de parcours de vie de famille. Est-ce que tu aurais envie d'en dire plus aussi sur ces personnages, comment tu les as affinés? J'imagine qu'il y a forcément un peu d'autobiographie ou en tout cas d'histoire personnelle, parce que je ne sais pas où on va chercher les idées, il faut forcément les puiser quelque part.
Oui, tout à fait. Ce film, au-delà d'être une histoire d'amour, je pense que c'est un récit initiatique, comme on appelle un coming of age. Donc moi, au moment où j'ai écrit en fait ce film, j'étais évidemment beaucoup plus jeune, même si je reste pas encore très très âgée, mais j'étais encore plus jeune et j'étais à cette période, je vais avoir 20, 21 ans, à ce moment dans cette vie, dans la vie où on cherche un peu qui on est, on cherche à comprendre son identité, qu'elle soit une identité plus générale ou une identité sexuelle, amoureuse. Et donc je pense que c'est ce que j'ai pu apporter en tout cas de moi dans ce personnage, cette incertitude qu'on peut avoir quand on est jeune adulte et qu'on n'est pas encore très certain de qui on est. Et donc dans mes personnages, en fait, je voulais effectivement éviter d'en faire des victimes. C'est pas parce qu'on est un petit peu perdu sur qui on est, qu'on se cherche, qu'on est forcément une victime. Ça fait de nous quelqu'un de fragile, mais aussi d'humain. Et je pense qu'en se trouvant, on gagne cette force qui nous permet de s'imposer dans le monde, de s'imposer face à notre famille. Et c'est là qu'est un peu toute l'histoire du film, évidemment, puisque ça va être un personnage qui est assez sûr d'elle, finalement, dans son intimité, mais qui est incapable de le transformer à l'extérieur, on va dire, de le montrer à l'extérieur. Et donc, tout son chemin, ça va être ce travail-là. Ça va être d'arriver à être qui elle est dans l'intimité de sa chambre, à l'extérieur, face au monde social, mais aussi face à sa mère. Et je pense que c'est là qu'on peut tous se retrouver finalement dans ce film. Tu parlais d'un film sur la différence, je parle d'un film aussi sur la tolérance, parce que finalement ça va être beaucoup ça. Est-ce que cette mère qui aime sa fille va être capable de dépasser cette annonce assez extraordinaire et certainement un petit peu dérangeante que sa fille est amoureuse d'une machine plutôt que d'un homme? Donc est-ce qu'elle va réussir à dépasser cette déception aussi de qui est-ce qu'elle avait imaginé que sa fille deviendrait, pour finalement l'accepter telle qu'elle est. Et le côté très poétique du film est pas forcément complètement ancré dans la réalité, mais aussi dans une sorte de métaphore, était là pour que un public finalement très large puisse se reconnaître dans le film, parce que je pense qu'on a tous à un moment donné cherché qui on était et cherché à faire comprendre à ses parents qui on était exactement.
C'est vrai que ce personnage est extrêmement fragile, mais on sent que sa mère la fragilise énormément parce qu'elle la décrédibilise un peu. Dès le départ, on sent ça dans cette scène dans la voiture où elles chantent toutes les deux. Il y a beaucoup de complicité, mais on sent tout de suite ce personnage qui peut être un peu écrasant pour elle, qui est très introvertie et craintive un peu. Il y a beaucoup de violence aussi dans ton film. Il y a plusieurs scènes comme ça de rapport entre elles deux qui est quand même... Alors, violence, on n'est pas sur du combat, il n'y a pas de sang, ne vous inquiétez pas, chère auditeur, auditrice, on n'est vraiment pas sur cette... Je ne parle pas de cette violence-là, c'est une violence intime, un peu comme tu l'as évoqué. Et c'est ce personnage extérieur qui va venir un peu... mettre de la distance aussi dans cette interaction d'individu à individu qui va venir mettre une distance un petit peu. Pareil, comment il vient d'où ce personnage? Qu'est-ce qui vient
Le personnage de Jumbo, du coup? Ou le personnage
non,
du père?
Non, je parlais de personnage de Sam Lewick.
Ah oui, de Sam Lewick, ouais. Le beau-père. Ouais. Ce qui va
oui, en tout cas, l'amant passage. Ouais.
Oui, tout à fait. En fait... ce personnage, pour moi, il était essentiel parce que sinon, on restait complètement dans une bulle mère-fille. Donc, je voulais placer le récit dans une sorte de bulle mère-fille pour qu'on puisse aborder ce sujet plus d'un point de vue émotionnel qu'intellectuel. Donc, j'ai volontairement cherché à éviter tout ce qui était la confrontation vraiment avec le monde extérieur ou la confrontation avec d'éventuels psychologues, etc. Et du coup, le personnage de Sam Lewick, il est là pour être un peu ce que Jumbo permet de faire à Jeanne, c'est-à-dire ouvrir les yeux à la mer. Jeanne, en Jumbo, en cette machine, elle va trouver une sorte de miroir qui va lui permettre de grandir. Et la mère se retrouve face à un mur, évidemment, quand sa fille lui annonce qu'elle est amoureuse de ce Jumbo. Et finalement, elle n'a pas grand monde à qui se rattacher pour essayer d'évoluer un petit peu plus vite, pour essayer de trouver une porte de sortie. Ou en nouveau chemin en tout cas, et ce personnage de Hubert joué par Sam Loïc va lui apporter cela. Et j'aimais bien cette idée qu'il arrive tout en douceur, on s'y attend pas. Il semble être un homme objet finalement, comme tous les hommes avec qui la mère passe du temps et est en relation. Et petit à petit, on comprend qu'en fait, c'est quelqu'un qui a perdu sa famille, qui est certainement en recherche d'une nouvelle famille, qui a plus de densité que ce qu'on lui donnerait à première vue, et il va prendre sa place dans cette famille.
C'est vraiment un très beau film. Je vous invite à aller voir Jumbo, dont on est en train de parler avec Zoé Witok, qui nous fait le plaisir d'être au micro de Radio D'ici. Quels sont les projets à venir ? Est-ce qu'il y en a ? Voilà, j'ai l'impression.
Alors, il y en a quelques-uns. Je peux pas encore vous dire grand-chose sur ces projets, si ce n'est que il y en a en français et il y en a en anglais. Voilà, j'ai la chance de pouvoir travailler dans les deux langues. Donc, on va voir.
Mais il y aura un second long-métrage de Zoé Witok prochainement.
J'espère bien. Je ne suis pas la seule à décider.
J'imagine bien. Vous étiez, il faut le souligner, tu étais au Festival Sundance aussi, où le film a été sélectionné dans la catégorie film étranger. Il a eu un bel accueil aussi.
Très bel accueil. C'est vrai que pour moi, Sundance, le festival de Sundance, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un très grand festival de cinéma indépendant aux États-Unis, fondé par Robert Redford. Donc, pour moi, c'était un rêve d'y être accepté. Donc quand on a eu la nouvelle, évidemment, il n'y avait pas d'hésitation à avoir. On a tout de suite accepté l'invitation. Et on a eu la chance d'être très bien positionné par le festival dans le premier week-end, donc avec le moment où il y a le plus de public. Et du coup, d'avoir un accueil très direct avec le public qui finalement est toujours un petit peu étonné par le film, surpris, mais touché. Je pense que les gens aiment bien le fait qu'ils ont aussi le droit de rire à cette histoire, parce que mine de rien, c'est absurde et on a le droit d'en rigoler, parce que c'est très très différent de ce qu'on connaît au quotidien. Et en même temps, à côté de l'humour, il y a cette densité émotionnelle qui ont tendance à les surprendre. Et effectivement, je pense que c'est de la poésie que le film apporte, permet à beaucoup de gens de s'y identifier. Donc voilà, c'était un petit peu la surprise de Sundance, les premiers retours en tout cas des spectateurs.
Bon, en tout cas, vous allez continuer à faire du cinéma ?
Bah oui, moi je vais continuer. On va pas s'arrêter là.
Et vous étiez à Cannes l'année dernière déjà, où vous allez...
Alors non, on n'a pas présenté le film à Cannes. Notre film, on l'a terminé trop tard pour le présenter à Cannes, de toute façon. Donc on était plus sur des festivals de la rentrée de septembre, août-septembre, etc. Sauf que Sundance nous a appelés, qui est la rentrée de janvier. Donc on a attendu.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu au micro de Radio D'ici.
Merci
là,
beaucoup.
Vous voulez ajouter quelque chose ?
Non, je suis ravie vraiment de parler sur des radios locales et de pouvoir discuter presque en direct avec les gens d'ici. Voilà.
Ouais, alors si vous avez loupé Jumbo pendant le festival du premier film, n'hésitez pas, ça sort le 18 mars, trouvez une salle. Au revoir, merci.
Merci beaucoup.
Let's go brave. You want the truth in- what you got.